Bonjour et bienvenue à Je vais au ciné, tous les lundis à 14h. Aujourd'hui avec moi j'ai Antoine.
Bonjour.
Comment ça va Antoine?
Ça va?
Tranquille?
Tranquille.
Comme
Cool. À la fraîche.
un lundi?
Non. Plutôt comme un mercredi.
Ah,
Voilà.
comme un mercredi,
Plutôt comme un
d'accord.
mercredi soir même.
Même
Tu vois,
carrément.
c'est assez étrange cette
Ouais.
sensation de.
Et j'ai avec moi aussi Mickaël.
Bonjour.
Comment ça va, Mickaël?
Bah ma foi, très
Bien,
très bien.
très très bien.
Très très bien.
Et puis on va commencer par Antoine qui va nous parler de. Ah, on va vite le découvrir.
Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle,
La
c'est à
haine
moi qui parle,
de
putain.
Kassovitz.
C'est à moi que tu parles comme ça, mec.
Donc on va parler de Scorsese
Pour changer.
pour changer.
Alors, en fin d'année dernière, le monde scorsésien se divisait en deux. Ceux qui avaient aimé The Irishman et les autres. C'est-à-dire, enfin, vous devriez dire celui qui n'avait pas aimé. C'est-à-dire moi. En cherchant à mieux comprendre le pourquoi de mon refus de ce film, je me suis demandé si en mon fort intérieur j'aimais vraiment les films de Scorsese. Car au final, j'avais vu peu de films de lui. Et c'est donc ainsi que je décida de voir ou revoir ces films que j'avais sous la main. Donc avant d'aller plus loin, fixons les limites de l'exercice. Je n'ai cherché à regarder que les films légalement disponibles. Me suis donc aidé des différentes plateformes de VOD et du coffret Blu-ray que j'ai à la maison. Je n'ai pas pu voir donc tous ces films et je me suis aussi aidé du travail d'un journaliste critique et historien du cinéma qui s'appelle Jean-Baptiste Torret, dont je vous recommande chaudement toutes les conférences que vous pouvez trouver sur YouTube. Je ne me lasse pas d'écouter, mais attention, cet homme a une vision bien à lui du cinéma, donc ça veut dire que généralement vous ne serez pas du tout de son avis.
Ça veut dire qu'après 1940, il n'y a rien eu de bien, quoi.
Après, ouais, c'est ça, voilà.
D'accord.
Donc replaçons Scorsese dans son époque. Alors, il est de la même génération que Coppola, Spielberg, De Palma ou encore Lucas. Entre les années 1975 et 1980, ils sortent tous des films qui ont changé la face du cinéma et qui, encore aujourd'hui, font parler d'eux. Quelle période bénie avec comme point d'orgue l'année 1978. De nos jours, nous pouvons constater que seuls Spielberg et Scorsese tournent encore régulièrement des films qui marchent en salle et dont la simple évocation d'un nouveau projet éveille la curiosité d'une grande majorité de cinéphiles. En proposant des œuvres à la fois distrayantes et familiales, le succès de Spielberg peut se comprendre facilement et aidé du compositeur John Williams, ils ont su écrire les plus belles pages du cinéma, en tout cas pour moi. La proposition de Scorsese est radicalement différente de celle de Spielberg. Son cinéma est plus violent, donc moins familial, et lui s'est aidé de ses acteurs fétiches, Robert De Niro 9 films, Harvey Keitel 6 films ou Leonardo DiCaprio 5 films, qu'il a su, lui aussi, écrire l'une des plus belles pages du cinéma, en tout cas pour moi, mais une page interdite aux moins de 16 ans. Enfin, l'année dernière, Scorsese s'est retrouvé au cœur d'une mini-polémique en tenant des propos dénigrant les films du studio Marvel. En 1995, avec son film Casino, il avait déjà prédit le changement de paradigme du cinéma américain. Alors ceux qui ont vu le film doivent sûrement se dire que je délire, mais faisons l'exercice mental de remplacer les casinos par celui des studios de cinéma. L'ancien monde sera détruit par le nouveau. Remplacez aussi le monde de la mafia par celui des réalisateurs. Eh bien vous vous rendrez compte que Scorsese annonçait déjà le changement qui allait avoir lieu. Pour appuyer encore un peu plus ma démonstration, écoutons l'extrait sonore. C'est en anglais.
Same. After the Tangiers, the big corporations took it all over. Today it looks like Disneyland.
Puis en fait, pendant la musique classique, on voit tous les buildings, les anciens casinos donc de la ville qui se font dynamiter. En fait, et là, De Niro en voix off dit les temps ne seront plus jamais les mêmes. Les temps vont changer. Et maintenant, on va laisser la place à Disneyland. Et à ce moment-là, il y a on voit des grilles. Alors c'est pas des grilles, mais on voit des gens qui rentrent dans les casinos en courant, enfin un peu comme quand on a l'habitude de voir les soldes en fait. Et donc c'est marrant parce que déjà à cette époque-là, il avait prédit que tout deviendrait Disneyland, hein, ce qui au niveau du cinéma n'est quand même pas totalement faux. Alors, attardons-nous maintenant sur sa filmographie. Si pour moi Scorsese est avant tout des films de mafia ou de gangsters, eh bien ça ne se limite pas qu'à ça. Les films sur la religion ou les documentaires musicaux sont tout aussi importants. Il s'est même essayé au film familial avec Hugo Cabret. Saluons les forts, mais c'est tout. Et pas Spielberg qui veut. J'aurais été curieux de voir ce film tourné par Spielberg, car la thématique de la disparition du père aurait plu au réalisateur. Entre une représentation de Paris clichetonesque à mort et un acteur principal bien fade, je peux dire que le film est loupé. J'ai toujours pensé aussi que DiCaprio était un bon acteur. Bien souvent, j'ai entendu de lui que Scorsese avait trouvé son nouveau Robert De Niro. En alternant un film avec De Niro et DiCaprio, je me suis rendu compte que le jeu de DiCaprio me semblait quand même bien fade face à celui de De Niro. Le jeu de De Niro est plus subtil. Je suis capable de rire avec lui et dans le plan suivant, il va me terrifier. Leonardo fronce les sourcils et c'est tout.
c'est pas faux. Je suis d'accord avec toi.
Et mon chouchou reste quand même Joey Pesci. Il joue un peu toujours le même rôle, mais il joue quand même super bien la boule de nerf qui va exploser d'une minute à l'autre.
Oui, extraordinaire.
Si Scorsese a su trouver des acteurs et non des actrices, c'est que ses héros sont avant tout des hommes agoraphobes. On ne regarde pas un film de Scorsese pour en apprendre sur la société américaine. On en apprendra bien peu dessus, voire même pas du tout. L'énergie est le moteur de la figure scorsésienne. Il va l'employer pour se démarquer de la masse. Ne pas ressembler à Monsieur Tout-le-Monde sera son objectif. Il fera tout pour sortir de l'eau, mais surtout pour ne pas y retourner. Écoutons cet extrait.
C'est maintenant le plus dur. Affranchis. Aujourd'hui, tout a changé. Il n'y a rien qui bouge. J'attends que ça se passe comme tout le monde. Même pas moyen de manger correctement. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccines et sauce marinara, j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc.
Si l'énergie fait avancer notre personnage, elle peut aussi servir de lien scénaristique. Prenez par exemple Taxi Driver. Le scénario est nul. Il se déroule en trois parties qui n'ont pas vraiment de rapport les unes avec les autres. Dans la première, il tente de draguer une fille. Dans la deuxième... C'est mon moment, ne le gâche pas, t'as gâché tellement d'autres moments, laisse-moi celui-là. Donc dans la deuxième partie, il tente de tuer un homme politique, et enfin dans la troisième, il va sauver une gamine de la prostitution. Ce qui donne un lien à tout ça, c'est l'énergie que va développer Travis Bickle, donc joué par De Niro, pour trouver une quête qui le fera sortir du lot. Le mouvement est aussi un point caractéristique des œuvres de Scorsese. Au début, il se fait lent. Revenons à Taxi Driver. Ce film est très lent dans sa construction. Les gros plans du taxi en déplacement suggèrent du mouvement, mais pas de vitesse. En 99, il va réaliser À tombeau ouvert. En gros, c'est comme Taxi Driver, mais vous remplacez De Niro par Nicolas Cage et le taxi par une ambulance, et là, les plans ne sont plus du tout les mêmes. La mise en scène de l'ambulance laisse cette fois-ci la place à la vitesse. Enfin, une des dernières caractéristiques du héros scorsésien, c'est que bien souvent, en plus d'être agoraphobe, il est très casanier. Beaucoup de ses films se passent dans le même quartier. On ne regarde pas un Scorsese pour la beauté des paysages. Et étant agoraphobe, il va se créer un groupe auquel appartenir. Un groupe ou un clan, ça rassure. On peut le contrôler jusque dans ses moindres détails. Par exemple, le nombre de myrtilles dans les muffins de casino ou les pépites de chocolat dans les cookies d'Aviator. Le monde extérieur est bien souvent anxiogène. Que ce soit le pays en guerre civile dans Gang of New York ou Sharon Stone dans Casino, c'est par lui que les problèmes vont arriver. D'ailleurs, souvenons-nous de l'entrée de Sharon Stone dans Casino. Hashtag meilleure entrée d'un personnage dans toute l'histoire du cinéma. Voilà, ma chronique touche à sa fin et je pense à peine avoir effleuré l'œuvre de Monsieur Scorsese. Il me reste des films à voir. Je ne suis pas du tout fan de tous ces films. Par exemple, Les Infiltrés, je n'ai pas du tout aimé. Mais je sais qu'une chose, c'est que je suis content d'avoir été contemporain de Scorsese et d'avoir pu voir certains de ses films au cinéma.
Eh bien, merci Antoine. Et on va écouter The Shift, j'arrive pas à le prononcer, de Howard Shore. Pour le The Thief.
The
Thief. De Howard Shore pour le film Hugo Cabret.
Thank you.
voici à Je vais au ciné. On va parler d'un film et on va parler du film Blowout.
C'est curieux pour une émission de cinéma de parler de film.
Voilà. Et plus particulièrement, alors d'habitude on parle d'un réalisateur ou d'un acteur.
D'habitude, on l'a fait deux fois.
Enfin, on l'a fait deux fois. Mais là, c'est Brian
Depuis
De Palma.
Depuis début 2020.
Voilà.
C'est Brian De Palma et John Travolta dans ce film. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Brian De Palma? Il a fait énormément de films, Brian De Palma.
Alors moi, je suis très mauvais pour discuter de Brian De Palma parce que je me suis rendu compte quand tu nous as dit on va parler de Blowout, et pas Blow Up, c'est autre chose. Dans la prochaine émission, j'ai été jeter un œil sur la filmo de Brian De Palma et j'ai fait. En fait, j'ai vu que Scarface. Ok, merci. Ok, bon ben voilà.
C'est tout ce que t'as vu de Brian De Palma.
Ouais, et très franchement, après avoir vu Blowout, on va en parler un petit peu plus tard, donc je spoil pas. Bah, pour l'instant, ça m'a pas donné envie de revoir d'autres Brian De Palma pour l'instant.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah voilà. Si vous connaissez pas,
les choses sont claires.
Si vous connaissez pas, il a fait plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais citer?
Non, mais
qu'est-ce que je
pourrais citer? Bon, c'est un réalisateur, il a fait des films.
Il a fait des films.
Qu'est-ce que je pourrais citer? Mission Impossible, Scarface,
Incorruptible.
Les Incorruptibles. Enfin bon, bref, il en a fait plein. Si vous connaissez pas Brian De Palma, allez voir sa filmo.
Allez sur Wikipédia.
Voilà, allez sur Wikipédia ou sur un.
Merde, donne pas nos trucs! Donne pas nos trucs!
Et John Travolta est très connu aussi pour Grease et puis plein d'autres films aussi que je me souviens pas là.
Attends. Quand la page Wikipédia elle a du mal à charger, parle pas trop vite comme ça, ça te laisse. Parce que là on sent bien que toi, Brian De
Palma, ouais, mais même John Travolta, à part Grease, il n'y a pas forcément énormément de
films. Pulp
Fiction. Ah, si, quand même.
Ouais, Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
La fièvre du samedi soir. Saturday Night Fever, je sais pas comment.
Il a un petit rôle dans La Ligne Rouge.
Ouais, bah ils ont tous un petit rôle dans La Ligne Rouge.
Spoiler.
voilà, ils ont. Et ce film. Si vous le regardez en français, je préviens tout de suite, la voix française de John Travolta, c'est celle d'un ami à lui qui est Depardieu.
Oui.
Et ça fait bizarre au début et après, j'ai réussi à passer outre. Mais
ouais, pareil, moi aussi, ça m'a pas dérangé d'avoir Depardieu qui parle par la bouche de Travolta.
Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Que ça raconte, ce film? En fait, c'est l'histoire du personnage de John Travolta, purée, ça y est, j'avais déjà mangé son nom, qui est en fait un preneur de son, qui fait, je crois qu'on peut appeler
des
ça
sons
comme
d'ambiance.
Ça. Oui, enfin, des sons, voilà, dans le cinéma, il travaille dans le cinéma, et preneur de son et tout ça. À un moment où il va enregistrer des bruits naturels, il assiste à un accident, et il va sauver la fille qui est dans la voiture, mais il n'arrive pas à sauver le gars qui se révèle être un gouverneur qui était pressenti pour être le prochain président des États-Unis. Oh, c'est quand même pas de bol.
Fichtre, diantre.
Diantre. Et du coup, en fait, avec son attirail d'enregistrement, il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas un accident, mais que c'est un meurtre parce qu'il entend des impacts de balles. Et tout le film est construit sur son désir de vouloir dévoiler la vérité au grand public.
En tout cas, ce qu'il pense être la vérité.
En tout cas, ce qu'il pense être la vérité, oui, tout à fait. Voilà. Je peux dire ce que j'en ai pensé, du coup?
Après, le film est construit sur le fait qu'il y a une relation entre le personnage qu'il a sauvé et lui.
Oui.
Et que ça devient une vraie... ça devient une vraie obsession pour lui. C'est-à-dire que...
Ah bah, ça devient carrément une obsession. Ce qui me mène à mon premier... grief contre ce film, c'est que à aucun moment on ne comprend pourquoi c'est si important pour lui. Chaque fois il devient de plus en plus de plus en plus paranoïaque et on ne sait pas pourquoi ça le travaille à ce point. Le seul truc qu'on lui donne, c'est une espèce de pseudo background Mais cliche-t-on possible, ancien militaire qui a tiré dans les flics, qui a fait des écoutes pour les flics et tout ça, et il a perdu un de ses collègues à cause de son système d'écoute.
Ah bah c'est, on n'a pas dit que c'était très original sur ce point-là.
Non, heureusement que la mise en scène sauve le film, parce que bon, bah c'est pas Jojo le Clodo qui est derrière la caméra non plus.
Bah, mais John Travolta s'est joué aussi.
Ouais.
D'accord, ouais. Pas convaincu par John Travolta.
Ouais, non, moi je suis carrément pas convaincu par John Travolta. Et Nancy Allen qui joue la fille qui sauve là, je me souviens plus du nom de son personnage, je me souviens plus des des personnages des deux d'ailleurs. Voilà.
Son rôle est pas fou et c'est pas fou.
C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Mais par contre, la mise en scène est super intéressante, c'est bien rythmé, c'est dynamique. John Lito, qui visiblement adore jouer des tueurs. Pour ceux qui ne voient pas de qui je parle, si vous avez vu Dexter, le tueur de la Trinité, lui.
Voilà, il fait toute une saison.
Et il fait flipper. Et dans ce film, il fait flipper aussi. Ouais. Il est fait pour jouer des rôles de tueur, en fait. Chacun son truc.
C'est quelque part les prémices de son rôle dans Dexter, parce qu'après, dans Dexter, il est encore plus flippant que dans ce film-là.
Parce qu'il a pris de l'âge aussi.
Il a pris de l'âge aussi, dans ce film, il est flippant. Mais il est un peu malsain. Mais alors dans Dexter, c'est pire.
Un tueur, par définition, un tueur en série, c'est pas un petit peu malsain déjà de base, je trouve. Enfin voilà, on s'égare un petit peu. Alors par contre, il y a un truc qu'il faudrait que tu m'expliques si t'as compris, c'est la scène de tuerie du début du film. J'ai pas compris ce qu'elle venait foutre là, mis à part pour être resservi à la fin du film, comme quoi là, le personnage de Nancy Allen en reparle en disant « Ah bah oui, il y a eu un tueur qui a sévi, on avait tous peur et tout ça. » Et c'est jamais ressorti à un autre moment du film. Je ne comprends pas ce que ça vient faire là.
Bah en fait, c'est que...
J'ai pas compris.
Ça montre que c'est un tueur de sang-froid et qu'il est capable de tuer et de... Je pense qu'il se fait passer pour un serial killer. Je suis pas sûr qu'il le soit vraiment.
En gros, ça serait Licto, en fait, qu'on a suivi depuis le début, là, qu'on voit pas au début, parce qu'on voit pas le tueur au début. Non, mais serait lui.
On sait pas, en fait. Moi,
c'est pour ça que je comprends pas.
En fait, je me demande si c'est le serial killer ou est-ce qu'il s'est fait il a fait croire que le meurtre où il s'est planté, en fait, à un moment il se plante et donc il tue quelqu'un, et pour éviter que ça lui retombe dessus, il fait croire que c'est un serial killer, enfin c'est le serial killer qui sévit actuellement. Est-ce que c'est vraiment le serial killer ou pas? Moi je pense que non, mais j'en suis pas sûr.
J'avoue que j'ai vu
que c'est lui ou pas.
Bah justement, c'est pour ça que je comprends pas ce que cette scène là vient faire au début, parce que on en parle pas du tout dans le film.
Non, je pense que c'est pas forcément utile cette partie-là.
Par contre, elle est très bien ficelée. Hein. Franchement, les 5 premières minutes de cette scène-là, je dis, si tout le film est comme ça, c'est cool et tout. Puis ensuite, John Travolta a débarqué et ça s'est un peu gâté. Voilà.
Je trouve que John Travolta joue plutôt bien. C'est un rôle qui lui convient. Il a une certaine folie et je trouve qu'il le joue bien, cette folie.
J'ai lu que c'était du coup l'un des films préférés de Tarantino, et c'est en voyant Travolta dans Blowout qu'il l'a incité à aller le chercher pour Pulp Fiction.
Ah d'accord, je ne savais pas.
Voilà. Donc du coup, alors Tarantino, je suis désolé, mais moi j'ai pas... Je suis désolé Quentin, mais par contre
Quentin,
je suis désolé, mais par contre bien joué gros d'avoir été le prendre pour Pulp Fiction, parce que dans Pulp Fiction ça marche.
Ça a été un bide, hein, ce film, quand il est sorti.
Non, Blowout, il a pas marché. Ils ont perdu du pognon là-dessus. Enfin,
oui, mais aujourd'hui il est culte.
Oui, il est devenu.
Mais en même temps, 90% des films cultes aujourd'hui se sont vautrés à la sortie. Donc j'ai envie de dire, ça commence plus à être un critère.
Mais il y a aussi une scène qui m'a, parce que j'avais déjà vu ce film il y a un peu plus d'un an, et il y a une scène qui m'a quand même pas choqué, mais qui m'a perturbé, c'est quand il est avec sa voiture et qu'il va dans la fête là, il y a un gros défilé et il va avec son 4x4 à fond dans les ballons dans la foule. Ça m'a rappelé quelques événements récents et ça m'a un peu perturbé. Parce que les flics, ils n'arrivent pas à l'arrêter et ils foncent dans la foule, quoi. Vraiment.
Oui, et puis de toute façon, on n'en parle plus après. Hein.
Non.
Le mec, il a foutu en l'air une fête nationale.
Oui.
tout le monde s'en tape. Hein.
Ah, oui,
le
oui.
mec, il a aucun problème, pas de flic, pas de poursuite.
Ce film, c'est quoi en fait? C'est John Travolta qui va devenir de plus en plus fou, non? C'est quoi qui va être.
Alors, fou, non. Non. Paranoïaque et obsessionnel, oui.
Il va avoir. C'est quoi? C'est un film de poursuite, non? Où il va être.
Non, même pas.
De...
C'est une sorte thriller. De thriller. Ouais.
Ça joue sur l'attention. Je pense que ça essaye de raconter un petit peu. Une histoire de complot. J'y ai vu qu'une histoire de complot, en fait. Oui, le gouvernement essaye de cacher que, en fait, le gouverneur a été tué parce qu'il se trouvait avec sa maîtresse dans la voiture, alors qu'il est marié, qu'il a des enfants, machin. Voilà, le gouvernement qui essaye d'étouffer l'affaire et tout ça, avec des mecs en impair qui viennent lui parler dès le début pour lui dire « Bon, écoute, tu vas garder ça pour toi, mon petit pote, machin et tout ça. » Voilà, c'est ça qui me gêne. Peut-être que, du coup, si je l'avais vu en 81... Je n'étais pas né, mais si je l'avais vu en 81, peut-être que j'aurais moins trouvé ça clicheton. Mais avec tout ce qu'on nous sert sur les complots, ça m'a saoulé. Je me suis dit, oh purée, encore une histoire de complot.
Ouais.
Voilà quoi.
Bah, en 81, c'était différent. Mais je comprends pourquoi il n'a pas trouvé son public, parce qu'il est quand même particulier ce film.
Il finit mal déjà. En 81,
John
les gens
Travolta,
ils
sortaient
de
la fièvre du samedi soir. Enfin,
tout
non,
à fait.
Ils sortaient ce succès-là. Donc,
je pense que ça les a choqués, les gens, de voir dans un rôle où il finit mal, entre guillemets. Enfin,
il meurt.
Il
est mouru à la fin ?
Non,
il
n'est
pas mouru.
Il n'est pas mouru, et puis même.
Lui, c'est le seul qui ne meurt pas d'ailleurs.
Oui, c'est un des rares à ne pas mourir. Et puis en plus, je trouve que même la scène finale est assez malsaine.
Oui.
Parce que voilà, bon bref, je dirais pas plus.
Voilà.
Mais la scène finale,
allez le voir parce
qu'on
commence à vous spoiler le film. Allez le voir et faites-vous votre propre opinion. Ça reste un bon moment. Pour moi, c'est juste un brin clicheton et Travolta. Enfin, les deux personnages principaux, Travolta et Nancy Allen, qui m'ont pas convaincu dans leur rôle. Voilà.
J'entends souvent parler de ce film en fait.
Ben c'est oui, ça fait partie des films qui ont une aura, quoi.
Ouais.
Qui ont créé une aura.
Et si vous voulez voir un bon Brian De Palma, regardez Scarface.
Oui.
C'est ultra violent, mais qu'est-ce que c'est bon.
C'est complètement différent.
Ah oui, c'est complètement différent.
On va écouter Prélude de Pino Donaggio, qui fait partie de la BO du film Blowout.
Thank you.
Nous revoici à Je vais au ciné. Donc on va parler d'un film. Et on va parler de quel film ?
Oh bah je crois qu'on peut parler des Enfants du Temps. On a spoilé la dernière fois.
Bah on a dit qu'on allait le voir.
Donc
on l'a vu.
Promesse, on a été le voir. On l'a vu.
Alors petite chose à préciser, tu l'as vu en VO ?
Oui.
Je l'ai vu en VF, donc je pourrais parler de la VF.
D'accord, ok. Ouais, non, moi, les films d'animation en japonais en VF, c'est pas possible.
Bah, je pourrais parler de
Je boycotte, purement et simplement.
Voilà.
Mais je comprends qu'on aille le voir en VF pour pas entendre du japonais, hein, je peux comprendre.
Non, mais je le verrai en VO, mais chez moi, tranquille.
Ouais, ouais.
En VF, surtout un dimanche à 11h.
Il mérite un deuxième visionnage.
Ouais, ouais.
Est-il mieux ou moins bien que Your Name ?
Il est moins bien que Your Name.
Il est moins bien, c'est clairement.
Clairement, mais en même temps.
En même temps, Your Name, c'est. Il a dépassé plein de choses.
Ouais, non, il pouvait pas être. C'était compliqué d'être mieux que Your Name. Bon après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film ? Déjà, on peut raconter un petit peu l'histoire. Ouais. Alors, en gros, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents. On suit un jeune adolescent qui quitte son île natale pour la grande ville, pour Tokyo. On comprend très vite dans les premières minutes du film qu'il a fugué et qui veut sous aucun prétexte retourner dans sa famille. Et il finit par trouver un travail dans un occulte petit journal qui recense les événements un peu surnaturels.
Alors, c'est pas vraiment un journal, c'est une rédaction qui vend à des journaux.
Ouais, enfin bref.
Ouais, c'est petit pas détail. Ça qui va changer.
Ouais, non, ça va pas changer. Et par ce travail, il finit par rencontrer. Inna, je crois, de son prénom, qui a le pouvoir de dissiper les éclairs, de dissiper la pluie qui tombe sans discontinuer sur Tokyo tout le long du film,
depuis un certain temps,
et qui a en gros le pouvoir de dissiper les nuages et de faire réapparaître le soleil. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ceux qui ont envie de le voir.
Ça ne dure qu'un temps, son pouvoir. Enfin, c'est une zone bien précise.
Ah, t'as déjà un gros spoiler de dire que ça ne dure qu'un temps.
Mais non, parce que de toute façon...
parce que là, tu sautes à la moitié du film.
Non, mais tu te rends compte que c'est pas permanent, puisque sinon, il n'y aurait pas de la pluie en permanence.
Si vous avez envie de voir ce film, arrêtez l'émission là.
Voilà, mettez l'émission en pause, voilà. Allez voir le film, et rappuyez sur play.
Non, mais s'il y a de la pluie tout le long, ça ne dure qu'un temps, et c'est sur un lieu.
Oui, c'est des courtes éclaircies qu'elle a le pouvoir de produire. Ouais, ça, on peut le dire, ça on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ? Alors, visuellement, c'est une claque, comme d'habitude.
C'est,
hein. C'est
plus,
magnifique.
Techniquement, c'est super.
L'animation, l'animation est géniale. La modélisation de la pluie sur le goudron
l'enrobé.
Sur l'environnement urbain, parce que le film reste quasi
très, très
exclusivement
urbain,
ouais. à Tokyo. Et c'est purement magnifique. Et dans ce sens-là, pour moi, il tutoie Miyazaki. Parce que Miyazaki, dans ses films, c'est très campagne, c'est très nature. Et à l'opposé de Makoto Shinkai, qui est plus urbain. Et je trouve que c'est une difficulté supplémentaire à animer, d'animer des éléments naturels sur un décor artificiel. Et il y arrive, franchement, c'est assez bluffant.
Il y en avait un peu de décor naturel dans Your Name, mais là, il n'y en a quasiment pas.
Là, il n'y en a quasiment pas. On est vraiment dans le 100% urbain, là, quasiment. Au niveau narratif, bon, on reste dans la fable adolescente avec un enrobage fantastique.
La construction est basique, mais elle fonctionne.
Ça se tient de bout en bout. Voilà. Après, c'est ma théorie personnelle. Pourquoi ce film n'est pas aussi bien que Your Name ? Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas l'effet surprise, certainement, puisqu'on
alors,
a vu Your Name avant.
Ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que le réalisateur, alors c'est vrai que Your Name, il a marché, mais en France, c'est pas non plus le carton du siècle.
C'est pas le carton du
siècle. Au Japon, il a pété tous les records.
Il a tout pété les records, donc effectivement.
Ouais. Il a dépassé tous les réalisateurs, il a dépassé tout le monde.
Le gars, c'est le roi du monde après, donc effectivement.
Ouais. Non, mais si on peut conseiller aux auditeurs d'aller voir Your Name s'ils ne l'ont pas vu. Mais pourquoi.
Hey gros, c'est pas grâce à moi que t'as vu Your Name ?
C'est possible.
Si,
ouais.
Si, c'était quand si, on était.
Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible, c'est possible. Non, mais des fois, tu es de bons conseils.
Ouais, surtout manga, c'est le seul. Hein. Je connais.
Ouais, c'est un film d'animation.
Et donc, pour dire, à mon sens, pourquoi Les Enfants du Temps. J'aime pas ce titre. Weathering with You, je trouve que c'est beaucoup mieux.
Ouais.
Par rapport à et moins bien que par rapport à Your Name. Et pour moi, il y a plus l'effet surprise. Your Name était vraiment une surprise. Personne ne l'attendait et ce film a un petit peu buzzé alors que vraiment personne ne l'attendait. Et le deuxième point que je mettrais, c'est la musique. La musique de Your Name, elle était classique, mais elle était elle servait super bien le propos et elle nous faisait chialer. Pour moi, dans Weathering With You, la musique pêche.
Ici, là, on atteint un point larme. Il faut quand même savoir que Mika est capable de pleurer sur Mariage, là.
Mariage Story. Ouais.
Par contre, quand il regarde le cinéma Paradiso, il pleure pas.
Ben donc, non, parce que la première demi-heure,
Mika,
je me suis ennuyé.
Mika a un problème de gestion des larmes, c'est tout. J'ai un problème de gestion de larmes.
Non, mais en dehors de ça, je trouve que la musique est moins percutante, elle est moins marquante que dans Your Name. Your Name, la musique était marquante. La musique, les thèmes des personnages, le thème de la relation des personnages était marquant.
Même le scénario, je trouvais plus intéressant dans Your Name que dans celui-là. Y a aussi moi, je trouve aussi qu'il y a des phases de lenteur inutile, enfin des périodes de lenteur inutile.
Un petit ventre mou.
Ouais, mais c'est régulier.
C'est comme ça que Sylvia.
C'est régulier en fait dans le film. T'as des petits moments où tu dis bon, ouais, c'est joli, c'est sympa, mais il faudrait qu'on avance un peu dans l'histoire. Je pense qu'il aurait pu en faire un film plus court. Il s'est pas gêné déjà pour le faire pour Garden of Words.
Garden of Words, c'est que c'est pas un long métrage.
C'est pas un long métrage. Mais là, ça aurait pu être plus court, je pense.
Ouais, il aurait pu faire une vidéo YouTube de 5 minutes, ça aurait déplié.
Non, peut-être pas quand même.
Peut-être pas. Mais par contre, je trouve aussi qu'il a mis plus d'action qu'il en a l'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est quand même beaucoup plus calme. Là, il y a beaucoup plus d'action, surtout vers la fin. Ça amène quelque chose de différent. On n'a pas l'habitude de le voir sur un terrain comme ça.
Ouais. Non, mais je trouve que justement, il arrive à construire une histoire qui se tient, il se renouvelle un petit peu, et tout en gardant son style. Moi, le gars, il est au sommet de son art. Et je même s'il n'est pas au niveau de Your Name, j'attends avec impatience son prochain film et j'irai le voir avec plaisir.
Ah bah oui, moi aussi.
J'avais une question, c'est une des critiques que j'ai entendues dans le film. Alors, est-ce que vous, ça vous a marqué ? Est-ce que ça vous a interpellé ? En fait, ce réalisateur-là, il fait de la pub, il fait beaucoup de pubs.
Oui, il en a. Il faut manger, mon capitaine.
Et en fait, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'avais plus ou moins entendu dire que ce film avait été financé par la pub et qu'il y a un nombre de placements de produits, mais c'est ça n'amenait pas grand chose.
Il y en a quelques-uns.
Mais une des critiques disait que, enfin, la personne que j'entendais disait que ça l'avait même à un moment sorti du film en fait, parce que c'était trop en fait.
C'est pas pire que d'autres films. Il y a des films américains où il y en a 10 fois
ça
plus.
Ça m'a pas sorti du film, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Sans comparer aux autres films.
Mais après, c'est vrai que je me suis fait la réflexion lors du visionnage. Je me suis dit, ah, purée. Oui, quand même.
Ouais, mais
ça m'a pas choqué.
Payer le film,
parce qu'après tout,
problème d'animation, faut payer les films.
Ouais. Non, mais moi, ça m'a pas choqué dans le sens où il dépeint de façon réaliste Tokyo.
Oui.
Bah, on va dans Tokyo, on aura les panneaux publicitaires. Ouais. Donc, ça me choque pas parce que
ça fait partie de la vie urbaine.
Ça fait partie de la vie urbaine. C'est comme reprocher du placement de produits à Blade Runner. Et on l'a reproché.
Ouais.
Bah, ou d'autres
c'est
films.
C'est le but du film. Ça fait partie du film. Ça fait partie de
comme d'autres
films
où il se passe en plein milieu de Times Square. Times Square, il y a des panneaux de pub partout. Donc, à un moment.
Non, mais il y a placement. Quand tu filmes un milieu urbain et que effectivement, tu filmes des devantures de magasins, ça peut être du placement de produit aussi. Mais effectivement,
oui.
Après, le placement de produit, c'est. T'as un plan qui va durer quelques secondes sur le logo d'une marque. Zoom sur une tablette où tu vois bien la marque de la tablette. Zoom sur le logo d'une bagnole. Des plans qui n'amènent rien à l'histoire.
Oui,
là,
ce qui n'est pas le cas.
On peut
reprocher le plan sur le téléphone pour bien montrer que c'est un iPhone.
Il y avait déjà ça dans Your Name, non, il me semble.
Oui, il y avait déjà ça dans Your Name.
Et moi, de ce que je me souviens dans Your Name, c'était le plan de la comète, ou dans le ciel, là, parce que c'était à ce moment-là de la comète qu'il y avait un changement de personnage.
Ouais.
Vous retiendrez quel plan, vous, de ce film ? Il y a un plan qui vous a marqué, non ?
Ouais.
Moi, quand il se retrouve sur le volcan, enfin sur la montagne, je sais pas trop si c'est un volcan. Si, c'est un volcan.
Le volcan, la montagne.
Pas dans Your Name, hein, mais dans le nouveau film. Là.
Ah, dans le nouveau film.
Ah oui, parce que j'étais en train de me dire,
parce que
volcan, le... montagne, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de montagne.
Non, dans Your Name. Non, bah là, dans celui-là, quel moment Ah, j'aime bien dans le parc. C'est un moment sympathique où il est avec où un des personnages est avec son fils.
Oui.
J'aime bien ce moment, c'est sympathique.
Il est sympathique, mais moi le plan, parce que le plan de la comète, il est beau, il est
superbement
visuel.
Mais en plus, le plan de la
visuel.
Comète, tu le vois au début du film dans Your Name,
ouais.
Et tu sais pas ce que c'est.
Il est superbe, il est superbe.
Tu le comprends que plus tard.
Moi le plan, spoiler. Avancez la vidéo, avancez l'audio. Le plan qui m'a marqué dans ce film, c'est quasiment à la fin quand le garçon Odaka va chercher la fille Ina, alors qu'elle a été entre guillemets absorbée par les nuages. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas spoilé. Et du coup, ils arrivent sur littéralement un nuage qui est en fait une espèce de je sais pas comment on pourrait dire, d'autre monde, un peu voilà. Et ce plan là, il a un de ses souffles, c'est ouais. Incroyable, c'est à la texture d'un nuage avec une plaine de dessus, c'est magnifique.
Une sorte de
c'est
près.
Une sorte de près, c'est vraiment magnifique. Là, là, un moment, j'étais sur le fauteuil, j'ai fait waouh, ok. Et voilà, il nous montre c'est qui le patron, hein? C'est qui? T'es bébé?
Voilà, non mais il est très très beau ce film. Après, c'est vrai que c'est pas Your Name, voilà, c'est encore...
Oui, mais voilà, moi je trouve que le seul défaut, en gros, enfin résumer ce film au défaut de passer après Your Name, voilà.
Bah, c'est...
S'il était venu avant Your Name, on aurait eu une critique totalement différente.
Oui.
Tu peux pas non plus.
Tu peux
pas
exclure ça.
Oui, on peut pas exclure ça, mais je trouve que c'est dommage de critiquer ce film juste sur point-là.
Bah,
alors qu'il y a d'autres points qui sont qui sont critiquables.
On peut aussi dire que il y a aussi le principe de un personnage masculin, un personnage féminin qui se rejoignent pour une aventure. Globalement, c'est ce qui se passe dans les deux films.
Ouais, mais là c'est 80% des films d'animation japonais. Hein,
pas
là.
Tous, mais on peut aussi signaler que comme dans Your Name, les personnages, aussi bien masculins que féminins, sont pas juste là pour aider
d'amour.
Les personnages, quoi. Ils ont leur propre vie,
background, leur propre chemin à suivre. Oui,
voilà.
c'est vrai. Les personnages secondaires ne sont pas juste des faire-valoir des personnages
principaux. Ils évoluent différemment, à des moments ils partent ou ils bougent, ils vont à un endroit ou à un autre, et ils sont assez...
Ils ont construit.
Oui, non mais voilà. Après,
parce que c'est suffisamment rare... pour être signalé.
Et c'est un peu triste quand même de souligner. Ah purée, dans ce film, il y a des personnages construits. Oh, truc de fou.
Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus.
Donc le film, c'est où? Il est disponible au Lobbies, non?
Oui, il est disponible au Lobbies, en VO ou en VF, les deux.
Ou les deux, ça dépend des horaires.
Ça dépend des horaires, oui, voilà. Ouais. Moi, je vous le conseille en VO en tant que puriste.
Est-ce qu'un point VO, ça parle beaucoup ou pas, toi? Parce que des fois, c'est un peu ça, l'un des gros problèmes de la VO, c'est que quand tu regardes un film qui parle, des fois, ça va trop vite. Et moi, je sais que
parce que dans le film, dans la filmo de Makoto Shinkai, c'est très poétique.
D'accord.
Donc, ça repose
beaucoup
lent. Sur le visuel. Et il travaille beaucoup ses visuels. Il est repéré.
Ouais, mais justement,
ça.
C'est ça qui peut être compliqué, c'est qu'il faut lire et en même temps regarder les plans.
Ah, ça m'a pas choqué, tu vois.
Ça
m'a pas choqué. Je regarde systématiquement les films d'animation en VO. Les films d'animation japonais, je les regarde en VO.
C'est
autant
un choix.
Que les films d'animation américains, j'en ai rien à péter de les regarder en VF. Mais les films japonais, j'aime bien entendre les nuances de voix japonaises qui sont. Quelquefois, je dis pas systématiquement, je crache pas sur la VF, il y a des VF qui sont très très bien, mais je trouve que on a du mal à mettre autant d'émotions dans les dialogues français que dans les dialogues japonais, et c'est normal, c'est une autre culture, donc c'est pour ça que je préfère les dialogues.
C'est aussi une autre culture, mais c'est aussi le fait que d'un côté t'as quand même le réalisateur qui est pas loin, alors que dans la VF il est pas là. Et ça change aussi des choses. Mais la VF est très correcte, ça passe très bien. J'ai pas été choqué par quoi que ce soit. Donc
Depardieu, il double un personnage.
Non, les voix sont des voix habituelles dans l'animation japonaise, c'est-à-dire que c'est pas des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est des voix qu'on entend régulièrement ou en tout cas
Mbappé n'a pas doublé de personnage.
Est-ce que voilà, c'est ça, parce que moi ça c'est un truc qui m'énerve. Dans les VF.
Non, il n'y a pas de personnage
connu et tu te dis pas tiens, je la reconnais cette voix, puis tu passes une heure à essayer de reconnaître qui est
justement là, c'est des voix connues dans l'animation japonaise parce qu'effectivement elles font que ça, ou alors si c'est des nouvelles voix, elles s'accordent bien avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, donc c'est pas gênant quoi. Ça,
d'accord,
ça passe tout seul, on s'en rend pas compte. Voilà. Pour faire les deux, pour écouter aussi bien en VF qu'en VO, ça passe très très bien. On va s'arrêter là-dessus et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Mika, au revoir Antoine.
Au revoir Seb, au revoir Mika.
Bonne semaine.